Annie. Première partie, chapitre 12. Aussitôt, Baringue télégraphia à sa femme et à sa fille de venir le rejoindre, et quand elles arrivèrent à Puyot, elles le trouvèrent au-devant d'elles avec la vieille calèche pour les emmener au château. Elles étaient en grand deuil et, pour la première fois, Annie portait une robe l'habillant à son avantage, sans avoir eu l'ennui de la tailler et de la coudre elle-même après 1000 discussions avec sa mère. Il les fit monter en voiture et prit la place à reculons. « Tu verras les Pyrénées, » dit-il à Annie. « À partir de Dax, j'ai aperçu leur silhouette vaporeuse. Maintenant, tu vas vraiment les voir, » dit-il avec une sorte de recueillement. « Voilà-t-il pas une affaire ?» interrompit Madame Baringue. « Mais oui, maman, c'en est une pour moi. » Son père la remercia d'un sourire heureux qui disait sa satisfaction d'être en accord avec elle. « Voilà le gave de Pau, » dit-il, quand la calèche s'engagea sur le pont. « Mais c'est très joli, un gave, » dit Annie, regardant curieusement les eaux tumultueuses roulant dans leurs rives encaissées. « C'est une rivière comme une autre, » dit Madame Baringue. « Il n'y a que le nom de changé. » « C'est que, précisément, le nom peint la chose, » répondit Baringue. « Gave vient de « caous » qui signifie « creux ». Et cette propriété ?» demanda Madame Baringue. « Que vaut-elle présentement ?»«
Je n'en sais rien. »«
Que rapporte-t-elle »«
Environ 40 000 francs. »«
Trouverait-on acquéreur pour 1 000 000 ?»«
Je l'ignore. »«
Tu ne t'es pas inquiété de cela ?»«
À quoi bon ?»«
Comment à quoi bon ?»
« Cherche-t-on acquéreur quand on n'est pas vendeur ?»«
Tu voudrais la garder ?»« Tu ne voudrais pas la vendre, je pense. »«
Mais tout nous oblige à la conserver et à l'exploiter pour le mieux de nos intérêts. Si elle rapporte 2% en ce moment, elle peut en rapporter 10 ou 12 un jour. » Stupéfaite, elle le regarda. « Certainement, » dit-elle. « Je ne te fais pas de reproche, mon pauvre ami. Mais après 20 années comme celle que je viens de passer, il me semble que j'ai droit à un changement d'existence. »
« Passer de notre bicoque de Montmartre au château d'Ourteau, n'en est-il pas un, en quelque sorte, féerique ?
« Est-ce à Ourteau que tu trouveras à marier Annie ?
Et pourquoi pas ?»
Jusque-là, Annie n'avait rien dit. Mais comme toujours, lorsqu'un différend s'élevait entre son père et sa mère, elle essaya d'intervenir. « Je demande qu'il ne soit pas question de mon mariage, » dit-elle, « et qu'on ne s'en préoccupe pas. Ce que cet héritage inespéré a de bon pour moi, c'est de me rendre ma liberté. Maintenant, je peux me marier quand je voudrais, avec qui je voudrais, et même ne pas me marier du tout, si je ne trouve pas le mari qui doit réaliser certaines idées, autres aujourd'hui que celles que j'avais il y a un mois.
« Ce n'est pas dans ce pays perdu que tu le trouveras, ce mari. »
« Je te répondrai comme papa, pourquoi pas, si je devais tenir une place quelconque dans vos préoccupations. Mais justement, je vous demande de ne me compter pour rien. Tu accepterais de vivre à Ourteau ?
Très bien. » « Tu es folle !»
Quand on était résigné à vivre rue de l'Abreuvoir, on accepte tout, ce qui n'est pas Montmartre, et d'autant plus volontiers que ce « tout » consiste en un château dans un beau pays.
« Tu ne le connais pas. Je suis dedans. »
Comme sa fille l'avait secouru, il voulut lui venir en aide.
« Et ce que je désire pour nous, ce n'est pas une existence monotone de propriétaire campagnard qui n'a d'autre distraction que celle qu'on trouve dans l'engourdissement du bien-être, sans souci comme sans pensée. Quand je disais tout à l'heure
qu'on pouvait faire rendre à la propriété un revenu de 10% au moins, ce n'est pas en se croisant les bras pendant que les récoltes qu'elle peut produire poussent au hasard de la routine. C'est en s'occupant d'elle, en lui donnant ses soins, son intelligence, son temps. Par suite de causes diverses, Gaston laissait aller les choses, et, ses vignes ayant été malades, il les avait abandonnées, de sorte qu'une partie des terres sont en friche et ne rapportent rien. « Tu veux guérir ces vignes ? Je veux les arracher et les transformer en prairies. Grâce au climat à la fois humide et chaud, grâce aussi à la nature du sol, nous sommes ici dans le pays de l'herbe, tout aussi bien que dans les cantons les plus riches de la Normandie. Il n'y a qu'à en tirer parti, organiser en grand le pâturage, faire du beurre qui sera de première qualité et avec le lait écrémé, engraisser des porcs. Mes plans sont étudiés. Nous sommes perdus, s'écria Madame Barinck. Pourquoi perdus ? Parce que tu vas te lancer dans des idées nouvelles qui dévoreront l'héritage de ton frère. Certainement, je ne veux pas te faire de reproches, mais je sais par expérience comment une fortune fond, si grasse qu'elle soit, quand elle doit alimenter une invention. Il ne s'agit pas d'invention. Je sais ce que c'est. On commence par une dépense de 20 francs, on n'a pas fini à 100 000. L'arrivée au haut de la côte empêcha la discussion de s'engager à fond et de continuer. Sans répondre à sa femme, Barinck commanda au cocher de mettre la voiture en travers de la route, puis, étendant la main avec un large geste en regardant sa fille, « Voilà les Pyrénées, » dit-il. « De ce dernier pic à gauche, celui d'Annie, jusqu'à ses sommets à droite, ceux de la Rune et des Trois Couronnes, c'est le Pays Basque, le nôtre. » Elle resta assez longtemps silencieuse, les yeux perdus dans ses profondeurs vagues, puis, les abaissant sur son père, « À ne connaître rien, » dit-elle, « il y a au moins cet avantage que la première chose grande et belle que je vois est notre pays. Je t'assure que l'impression que j'en emporterai sera assez forte pour ne pas s'effacer. « N'est-ce pas que c'est beau ? » dit-il, tout fier de l'émotion de sa fille. Mais Madame Barinck coupa court à cette effusion. « Tiens, voilà notre château !» dit-elle en montrant la vallée au bas de la colline, au bord de ce ruban argenté qui est le Gave. « Cette longue façade blanche et rouge. « Mais il a grand air, vraiment ?»« De loin, » dit-elle dédaigneuse. « Et de près aussi, tu vas voir, » répondit Barinck. « Je voudrais bien voir le plus tôt possible, » dit Madame Barinck. « J'ai faim. » La côte fut vivement descendue et, quand après avoir traversé le village où l'on s'était mis sur les portes, la calèche arriva devant la grille du château grande ouverte, la concierge annonça son entrée par une vigoureuse sonnerie de cloche. « Comment ? On sonne ? » s'écria Annie. « Mais oui, c'était l'usage du temps de mon père et de Gaston. Je n'y ai rien changé. » C'était aussi l'usage que Manuel répondit à cette sonnerie en se trouvant sur le perron pour recevoir ses maîtres, et, quand la calèche s'arrêta, il s'avança respectueusement pour ouvrir la portière. « Voulez-vous déjeuner tout de suite ?» demanda Barinck. « Je crois bien, je meurs de faim, » répondit Madame Barinck. Quand Annie entra dans la vaste salle à manger dallée de carreaux de marbre blanc et rose, lambrissée de boiseries sculptées, et qu'elle vit la table couverte d'un admirable linge de peau damassé sur lequel étincelaient les cristaux taillés, les salières, les huiliers, les saucières en argent, elle eut pour la première fois l'impression du luxe dans le bien-être, et, se penchant vers son père, elle lui dit en soufflant ces paroles. « C'est très joli, la richesse. » Ce qui fut joli aussi, et surtout agréable, ce fut de manger tranquillement des choses excellentes, sans avoir à quitter sa chaise pour aller, comme dans la bicoque de Montmartre, chercher à la cuisine un plat ou une assiette, ou remplir à la fontaine la carafe vide. En habit noir, ganté, Manuel faisait le service de la table, silencieusement, sans hâte comme sans retard, et si correctement qu'il n'y avait rien à lui demander. Pour la première fois aussi, lui fut révélé le plaisir qu'on peut trouver à table, non dans la gourmandise, mais dans un enchaînement de petites jouissances qu'elle ne soupçonnait même pas.
« J'ai voulu, » dit son père,
« ne vous donner à ce premier déjeuner que vous faites au château que des produits de la propriété. Les artichauts viennent du potager, les œufs de la basse-cour. Ce saumon a été pris dans notre pêcherie. Le poulet qu'on va nous servir en blanquette a été élevé ici. Le beurre et la crème de sa sauce ont été donnés par nos vaches. Ce pain provient de blé cultivé sur nos terres, moulu dans notre moulin, cuit dans notre four. Ce vin a été récolté quand nos vignes rapportaient encore. Ces belles fraises, si fraîches, ont mûri dans nos serres.
« Mais c'est la vie patriarcale, cela !»
interrompit Annie. « La seule logique, et sous le règne de la chimie où nous sommes entrés, la seule saine !»